Silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour à nos chers auditeurs. J'espère que vous allez bien, voilà, et que, bon, bah, que vous vous protégez du froid, de la pluie et de tout ce qui nous incombe en hiver, car nous sommes en hiver.
Alors, oui. Cette semaine, de quoi vas-tu nous parler ?
Bon, alors, je vais vous parler... La mousse au chocolat, non ? Non, la tarte au citron ? Non, on va repartir dans le cinéma, finalement.
Toujours, oui, le cinéma et l'actualité des salles obscures.
Oui, alors, on va commencer par de l'animation pour nos petits chéris et pour nos grands aussi, d'ailleurs. Hein. Moi, j'aime bien accompagner les enfants parce qu'il y a plein de films que j'aime voir, d'animation. Et mon prétexte à moi, c'est d'emmener un petit enfant. Comme ça, je vois le film aussi. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui font la même chose. Évidemment, on ne va pas dire « Ah, tiens, je vais voir un film d'animation ». Non, j'emmène tel enfant voir un film d'animation. Voilà. J'ai toujours fait un peu comme ça. Et là, j'en ai un très joli, parce que je l'aime beaucoup. On avait déjà parlé du premier, je vais vous dire le titre. La bataille géante des boules de neige 2. L'incroyable course de luge. Et oui, il y avait eu le 1, bien sûr. La bataille géante des boules de neige. Donc, le premier succès, c'était un gros succès, c'était en décembre 2016. Et je me souviens de ce film, d'ailleurs, qui était passé, je crois, là, à l'Aréole, chez notre cinéma... je cherche le mot.
Le cinéma Rex, à l'Aréole.
Non, oui, mais notre...
Partenaire.
Partenaire, voilà, je cherchais le mot partenaire. Je vais retourner au lit tout de suite après, hein, je vais essayer de dormir. Donc là, il était passé chez notre partenaire, je me souviens que j'étais allée le voir, justement, avec deux ou trois enfants, je me souviens. Et je l'avais trouvé très chouette. Et bien là, c'est le deuxième. Il revient donc dans ce deuxième épisode qui est encore, comment on peut dire, encore plus givré. Voilà, on peut dire ça comme ça, compte tenu du titre. C'est l'incroyable course de luge. C'est une folle aventure à travers le Grand Nord canadien, mais aussi et surtout à travers les épreuves, les petites et les grandes victoires de l'enfance. Pour François, les lunettes... Gagner la course de luge est devenu une habitude. François Le Lunette, on se souvient de François Le Lunette ?
Eh oui !
Eh oui, bien sûr ! Vainqueur depuis 5 ans, eh oui, François et sa pilote, Sophie, on se souvient d'elle, doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zach. Mais ce dernier n'a aucun scrupule à tricher. François et sa bande, qui veulent leur revanche à la loyale, cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques surprises. Alors, je n'ai pas dit, c'est une animation, c'est canadien. C'est un film canadien, le premier aussi, bien sûr. Et c'est François Brisson qui avait déjà réalisé le premier, mais cette fois, il est en co-réalisation avec Benoît Godbout. Alors qu'en 2016, c'était François Pouliot qui avait travaillé avec lui. Donc Benoît Godbout et François Brisson, ce sont des réalisateurs français. Hein. Alors c'est, voilà, soyez prêts pour une course légendaire, voilà ce qu'on nous dit. Tout chou, c'est mignon comme tout, et c'est un brin déjanté, effectivement. Voilà, ce qu'il fallait. Alors, ça dure 1h22.
Et ça s'appelle la bataille géante de boules de neige de l'incroyable course de luge.
Voilà, c'est le titre de cette animation.
Ensuite.
Ensuite, j'ai encore une animation. C'est français, c'est belge, c'est très, très, très joli. Ça s'appelle l'Odyssée de Choum. Alors, c'est un voyage touchant et poétique, voilà, au milieu d'une nature sublime. C'est Choum, c'est quoi Choum? Ben, Choum, c'est une petite chouette qui vient juste d'éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid, faisant rouler vraiment le second œuf. Elle a fait rouler le second œuf de la nichée, voilà, et elle s'élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman. Et oui, c'est joli comme tout. Alors, c'est un film réalisé par Julien Bissaro, qui est un réalisateur belge, franco-belge d'ailleurs. Ça dure 26 minutes. Non, 0h38, pardon. Ça dure 38 minutes. Non, ce qui dure 26 minutes, c'est l'Odyssée de Choum. Le premier, parce qu'il y a deux autres petits courts-métrages. Donc, le premier. Ensuite, le deuxième s'appelle Le Nid, Nest, voilà, de Sonia Royeder, qui est une réalisatrice allemande. Ça dure 4 minutes, c'est mignon comme tout. Dans la nuit, un drôle d'oiseau solitaire, un oiseau de paradis, est à la recherche d'une âme sœur. Pour attirer l'attention d'un nouveau partenaire, il effectue une parade nuptiale. Ensuite, j'ai L'oiseau et la baleine, The Bird and the Whale, de Carol Freeman, qui est un réalisateur irlandais. Ça dure 7 minutes. Et alors là, c'est très curieux, c'est joli comme tout, L'oiseau et la baleine, c'est de la peinture sur verre. C'est vraiment très, très beau. Alors voilà, c'est l'oiseau qui est repoussé par les siens car il ne sait pas chanter. Alors, et oui, et puis après, lorsqu'il remonte, alors on parle du c'est pas l'oiseau qui ne sait pas chanter, c'est la baleine, hein. J'ai dit l'oiseau, mais c'est la baleine. C'est un baleineau, exactement, d'ailleurs. Il est dans l'océan, il brave beaucoup de dangers. Lorsqu'il remonte à la surface, il rencontre cette fois un oiseau en cage, seul rescapé d'un naufrage. L'oiseau, lui, chante, par contre, merveilleusement bien. C'est chouette aussi, c'est mignon comme tout. C'est vraiment l'Odyssée de Choum, mes chéris. Oh oui, allez-y, emmenez vos petits là. Ma petite copine Naya, elle va y aller, j'en suis sûre. C'est mignon, c'est adorable. C'est très, 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 très joli. Ah oui, ça fait partie des petites merveilles de l'animation.
Et après, encore un film d'animation.
Oui, j'ai encore un film d'animation. Et c'est ? Alors, tu nous dis le titre ?
Mission Yeti.
Oui, Mission Yeti. Bon, c'est quoi un Yeti déjà, d'abord ?
C'est une bête imaginaire que l'on trouve dans l'Himalaya.
Voilà.
Imaginaire,
voilà.
Mais pas forcément.
Yeti. Alors, en fait, c'est à partir de 6 ans. Ouh, Naya va être drôlement contente. Ça se passe au Québec. En 1956, pardon, oui, c'est ça. Les destins de Willy et Malloy, détectives privés débutantes, et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Donc c'est Nelly Malloy, oui, c'est ça, et Simon Picard. Soutenu par un mécène ambitieux, Malloy intuitive et chaotique, et Picard méthodique et obsessionnel, mais exceptionnel aussi d'ailleurs, se lance dans l'aventure. Alors, c'est co-réalisé par Pierre Gréco, qui est un réalisateur scénariste québécois, et Nancy Florence Savard, qui est une réalisatrice productrice canadienne. C'est très, 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 très chouette. En fait, les deux petits mignons, là, Willy Malloy et Simon Picard, ils se lancent dans une véritable aventure, hein, parce qu'ils veulent prouver l'existence du Yeti. Et oui, voilà ce qu'ils ont dans la tête. Et pour y arriver, Simon compte sur le journal d'un explorateur pour les mener au repère de la créature mythique, accompagné de Tenzing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un ménate bavard. Ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l'Himalaya. Ce que tu nous disais tout à l'heure, Damien, le Yeti, c'est vie dans l'Himalaya. Eh oui, il vit là-bas, hein, on suppose. Allez, on va se dire qu'il y vit, on a envie qu'il existe aussi, le Yeti. Ben, si vous voulez savoir ce qui va arriver, il faut aller voir Mission Yeti, ça dure 1h24.
Et on peut peut-être écouter la bande-annonce.
Oui, si tu l'as, merci Damien.
Je m'appelle Simon Picard. Et...
moi, c'est Nelly Malloy, détective privée. L'intuition au service de la vérité.
Repousser les limites du savoir, voilà la mission des scientifiques.
Et ça, c'est quoi?
Le Yeti.
Tu crois qu'il existe vraiment?
Bien sûr. Suis-moi. Nous cherchons la famille comme vous. Je suis certain qu'ils pourront m'aider à déchiffrer le journal.
Et que voulez-vous en faire?
M'en servir pour trouver Yeti.
Le Yeti n'existe pas.
Nuance. Son existence n'a pas été prouvée. Simple question de temps. Les gens reviennent transformer l'Himalaya. Ou ne reviennent pas.
Nelly!
La montagne règle ses comptes elle-même.
Je vous donne 3 mois pour ramener la preuve du Yeti, sinon vous êtes viré.
Mais je suis pas un aventurier, moi.
On ne sait pas s'il existe, mais on sait qu'il est carnivore.
Alors, d'après mon hypothèse, si on marche 5000 pieds vers le nord-est, ça nous mènera directement au repère du Yeti.
Voilà donc
oui.
La mission Yeti.
C'est chouette. On parle de jasmin qui est un ménate. Un ménate, c'est un oiseau qui parle, en fait. Hein.
Oui,
c'est... celui-là est très bavard, d'ailleurs. Ouais.
Et donc, ce film sort partout en France aujourd'hui, également dans votre cinéma de proximité au Cinéma Rex. Il sera diffusé dès cet après-midi à 15h.
Ah,
donc,
voilà.
N'hésitez pas à y aller.
Vous avez le temps d'y aller. Mais oui, bien sûr. Non, c'est très, très joli. Hein. Vraiment très chouette. C'est une jolie histoire. Les personnages sont très attachants. C'est vraiment... voilà, c'est un film canadien, hein, je l'avais dit.
C'est et ça vraiment... s'entend un peu dans la voix de, dans la, les différentes voix de, des acteurs, pas des acteurs, mais des animations.
Ouais, 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 tout à fait.
On entend un petit accent.
Chouette. L'histoire est sympa. Il y a une nomination en fait. Et oh, j'ai pas dit. Il y a une nomination au premier au festival qui s'appelle Mon Premier Festival. C'était dans la série avant-première. C'était en 2018. Ah oui. Il a beaucoup plu. Non, mais il est vraiment chouette. Hein. Vraiment, ça vaut la peine. Oui, vous avez le temps, là, hein, de mettre les bottes.
Puis c'est à 15h, la séance
voilà,
à Aréole.
Pour avoir bien chaud aux pieds. Et puis y aller, vous avez le temps. C'est pas loin, en plus. Il faut quoi pour aller là-bas? Combien de temps?
Ah, ensuite, alors, on va continuer avec une comédie française.
Une comédie française, ben oui. Il me semble que la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de comédies, si je me souviens bien. On était beaucoup dans les drames. Ouh, on va passer dans les comédies. L'esprit de famille, c'est une comédie française d'Éric Bénard, qui est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Il a déjà eu 2 nominations, il a 55 ans. Donc, il a encore le temps de nous faire de chouettes comédies. C'est quoi? Ben, c'est l'histoire d'Alexandre qui s'embrouille une nouvelle fois avec son père, Jacques. A priori, il ne devrait pas. Pourquoi? Ben, parce que ce dernier vient de décéder. Mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir, et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s'inquiéter de son étrange comportement. Et oui, évidemment. Alors quand je vous donnerai le nom des acteurs, oh, c'est un joli casting.
Il y a un sacré casting. Oui.
Ah oui, Guillaume de Tonquédec. Bah, j'ose même plus le présenter parce qu'on le connaît, ça marche pour lui. C'est un excellent acteur en plus. On a François Berléand, c'est pareil. Alors lui, c'est le père. Hein. Il joue le fameux fantôme. On a Josiane Balasco, c'est la mère. Pareil. Qui d'ailleurs, pendant tout le film, elle a un truc sur un œil, elle a un bandeau, un espèce de truc noir, là, un peu comme les corsaires. En fait, elle n'a rien à l'œil, mais c'est parce que voilà, ça lui plaît d'avoir ce bandeau sur l'œil. Ça vous donne une idée quand même. On a Isabelle Carré, on a Jérémy Lopez, on a Marie-Julie Baupe, et on a dans les rôles principaux Jules Causdelin. C'est vraiment un casting sympa, hein, il n'y a pas de doute. Alors, il y a une nomination au Festival Film Francophone d'Angoulême 2019, dans les avant-premières. Ça dure 1h38. C'est vraiment chouette. Alors, Éric Bénard nous a dit que le scénario de l'esprit de famille lui est venu après la mort de son propre père, lorsqu'il s'est demandé comment dépasser ce deuil. Alors, il disait « ma névrose première, était d'écrire assez logiquement. J'ai décidé de m'atteler à un texte dans lequel mon père, désormais absent, serait quand même omniprésent. Ma mère avait été le point de départ de mes héros. Mes héros, c'est un film, hein, avec Josiane Balasco également. Mon couple, celui du goût des merveilles. Mon père serait le point de départ de celui-là. Mes chéris, j'ai acheté le DVD Mes héros, pas cher du tout d'ailleurs. Et vraiment, c'est un film très, très agréable. C'est avec Julio, je cherche son prénom.
Gérard.
Voilà.
Gérard Junior.
Voilà, Gérard et Balasco.
Josiane.
C'est vraiment, vraiment un très, très beau film, Mes héros, qui est justement réalisé par Eric Bénard. Donc là, il dit, voilà, c'est le point de départ pour mon père. Cela peut paraître fou, mais quand je me suis mis devant mon ordinateur, j'ai eu immédiatement l'impression d'écrire à quatre mains. Eh oui, il avait l'impression d'écrire avec son père. C'est chouette quand même, ça. C'est pas, attention, hein, l'Esprit de famille n'est pas un film de fantômes, mais c'est un film sur les symptômes de la persistance de la présence des êtres aimés disparus. C'est ça. Alors, il nous dit, d'ailleurs, le réalisateur, des êtres dont on se dit qu'on aurait pu ou qu'on aurait dû passer plus de temps avec eux, auxquels on a l'impression d'avoir oublié de dire des choses essentielles et dont on pense qu'ils auraient pu nous apporter encore beaucoup. Redonnez-moi 3 minutes avec lui ou elle, juste quelques secondes, quelques mots. Les morts se dissolvent dans l'éternité. Ceux qui restent doivent se résoudre à dialoguer, avec eux par l'esprit, mais au cinéma. Médium de toutes les licences, on peut se permettre l'impossible. Le manque est tel que le fils fait apparaître le père. La présence matérialise la force de l'absence et permet de rendre hommage à un esprit facétieux, amoureux du réel, de la vie et de l'incarnation. Le dernier tour de piste de l'artiste. Voilà ce qu'il nous dit Eric Bénard. C'est très joliment dit, je trouve. C'est tout à fait ça. Il ne voulait pas que ce soit un film esthétique, hein, pas du tout. Il voulait que ce soit quelque chose vraiment... il n'a pas abusé, par exemple, il voulait que ce soit quelque chose de simple, il n'a pas abusé des effets spéciaux. Il trouve qu'on en abuse un petit peu au cinéma, quand même. Enfin, pour lui, bon. Non, lui, ce qu'il voulait, c'était traduire la puissance de la nature et le rayonnement des gens. Voilà. C'était ça, son... Et je crois qu'il a réussi, ça. Je crois qu'il a réussi. Écoutez, mes chéris, franchement, allez voir ce film, si vous pouvez, parce que... Bon, ça, d'abord, ça vous fera du bien, ça vous détendra. Puis si vous êtes dans ce cas-là, vous avez peut-être perdu quelqu'un comme ça, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, qui avec qui vous étiez en osmose et qui, avec qui vous n'avez pas dit tout ce que vous vouliez dire, avec qui voilà, vous aimeriez encore pouvoir dialoguer. Allez voir ce film, ça va vous faire un bien fou. En tout cas, moi, c'est mon cas pour un grand-père et un père. Et je serais ravie de voir... Ça va me faire du bien.
Et on peut écouter la bande-annonce pour se donner une idée du côté burlesque du film.
Ah oui, bien sûr, c'est une comédie, hein, mes chéris, c'est pas un drame. Hein.
Tu m'oublies déjà ?
Au début, j'ai cru que c'était des hallucinations temporaires, mais ça fait des mois que ça dure et c'est de pire en pire.
Vous allez devoir accepter de le laisser partir. Il n'est plus là.
Tu dois pas être au courant.
Tu sais que je t'entends, là.
On a une réunion de famille ce week-end, on sera tous réunis pour la première fois depuis sa disparition. Je leur dis quoi, moi, s'ils me voient parler à une brouette?
Là, c'est devenu n'importe quoi, t'es cloîtré dans ton bureau. Tu me regardes même plus.
C'est pas vrai.
Regarde-moi et ferme les yeux. Elle est de quelle couleur, là, ma robe?
Je t'aurais bien soufflé, mais ça aurait été de la triche.
Bonjour, maman.
Bonjour.
Mon seul petit secret, c'est toi, et t'es plus là.
Parfois, je décroche mon téléphone pour l'appeler, puis je me souviens qu'il est plus là. Moi, je le vois.
Faut toujours que tu fasses mieux que les autres, c'est fatigant.
En fait, tu vois, je crois que j'étais trop présent avec toi. Mais trop présent, certainement pas, t'étais jamais là. Tu me voyais pas. Tu m'as jamais fait faire des devoirs.
Si tu devais employer un mot pour me caractériser, tu choisirais quoi?
Égoïste.
Ah oui, quand même.
Ouais, tu l'as pas vu venir, celui-là.
Ah, on t'a vu faute.
Pénalty.
Interdit rien, fais tout ce qui permet de te sentir vivant. Faut rire, déconner, mentir, crier. Et surprendre. C'est important de te surprendre.
Excuse-moi pour la voiture.
Bon, je compte plus trop m'en servir.
Voilà donc l'esprit de famille.
Oui, on entend au début, quand il lui dit, on entend la voix du père, du fantôme. Tu m'as déjà oublié, c'est parce qu'en fait, son fils, Guillaume de Tonquédec, qui joue le rôle, a oublié sur le toit de la voiture l'urne dans laquelle il y a les cendres de son père. Il a démarré, il a oublié. C'est pour ça qu'il lui dit « Tu m'as déjà oublié ou tu m'oublies déjà ?» Ça, ça commence comme ça. Hein. Ouais, mais c'est très savoureux. Avec des acteurs comme ça, on y va, carrément.
Et maintenant, on va retrouver un thriller français.
Oui, un thriller français, Les Traducteurs. C'est un film de Régis Roinsart, qui est un réalisateur scénariste français, de 48 ans. Il a déjà eu 4 prix, 14 nominations, dont d'ailleurs dont le film qui était sorti en 2012, un film formidable, qui s'appelle « Populaire ». C'était avec Déborah François et Romain Duris. C'était sur une histoire de concours, gagner le concours de la machine à écrire, enfin de celui de qui tape secrétaire. Le plus vite. Et d'ailleurs, elle va devenir championne du monde, d'ailleurs. Ce film a beaucoup plu à l'époque et il a été récompensé pour ce film, ainsi que les acteurs, d'ailleurs. Alors ça, c'est quoi, Les Traducteurs? C'est un truc terrible. Thriller, on a bien dit, hein, donc ça fait frissonner. Isolé dans un luxueux, ou plutôt une luxueuse demeure, sans aucun contrat possible. Pardon.
Contact.
Comme je dis d'habitude, hein, c'est mon lait, j'ai bu du lait, ça doit être pour ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce lait? Je demanderai aux vaches, hein, je leur poserai la question. Donc, isolé. Dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, 9 traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les 10 premières pages du roman sont publiées sur Internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante. D'où vient la fuite ? En tout cas, c'est pas d'ici, hein, Damien. Hein, nous, on n'a pas. Hein, c'est pas nous. Et c'est pas vous non plus, mes chéris. On le sait. Alors, on a pareil. On a des acteurs prestigieux quand même dans ce film. Hein. On a Lambert Wilson, on a Olga Kurylenko, Ricardo Scamarcio, on a Eduardo Noriega, Alex Lauter, on a Anna Maria Sturm, Frédéric Cho. Frédéric Cho, il était dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. C'était lui le. Il est d'origine asiatique, je crois, français bien sûr. Donc pour le reconnaître dans le film, hein, c'est pour ça que je le dis. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? C'est lui, il est là dans ce film, très talentueux. On a Sarah Giraudeau, toujours aussi belle et talentueuse. Voilà, c'est dans les rôles principaux. On a tous ces acteurs. C'est pour ça que je dis que c'est un beau casting quand même. Il fallait des gens talentueux, hein, pour jouer dans ce film, pour que ce soit quelque chose de crédible, voilà, pour que ce soit une histoire crédible. Ça dure 1h45. Alors, en fait, selon le réalisateur, hein, selon Régis Roinsart, les traducteurs, le film, porte en lui 3 types de thrillers différents. Il y a une première partie qui est un what nous dit, c'est-à-dire très Agatha Christie, qui va se transformer en film d'arnaque pour se finir en film de vengeance. J'aime bien l'idée de changer de genre dans le même film, mais à condition de jouer avec les codes. Voilà ce qu'il nous dit. En France, au fait, quand même, les traducteurs sont considérés comme co-auteurs des œuvres qu'ils traduisent, et à ce titre, ils touchent des droits d'auteur sous forme de pourcentage des ventes. Alors en moyenne, c'est 2% à peu près. Hein. C'est tout à fait spécifique au système français, ça, par contre. Parce que dans la plupart des pays, les traducteurs, enfin, le traducteur, c'est un technicien qui est payé au feuillet, et c'est une situation qui peut être extrêmement précaire. Donc on a un système, nous, beaucoup plus protecteur. Alors après avoir lu plusieurs articles autour de la traduction du livre de Dan Brown, qui s'appelle « Inferno », il y avait 12 traducteurs internationaux enfermés dans un bunker en Italie, pour traduire son dernier roman. Voilà, c'est à cause de cette histoire que le réalisateur Régis Roinsart a été fasciné. Parce que pour lui, le fait qu'un produit culturel nécessite qu'on le protège comme s'il s'agissait de pierres précieuses, ça, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Il a trouvé, justement, que c'était une chose assez incroyable. Et voilà comment est née cette idée du film Les Traducteurs. 1h45, franchement, si vous êtes un peu costaud quand même, hein, parce qu'il y a des moments, assez angoissants. Hein, un thriller, c'est quand même pas de la rigolade. Eh bien, il faut aller le voir quand même. Hein. Alors moi, je suis un petit peu fragile côté stress au cinéma, j'avoue, parce que je marche moi à fond. Mais je vais quand même me faire une petite violence pour aller voir celui-là en entier, absolument. Ou alors, si je n'ai pas le courage, je trouverai le DVD un peu plus tard. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, alors j'ai une comédie, c'est espionnage, c'est de la comédie, c'est français, ça s'appelle Le Lion, c'est de Ludovic Colbeau-Justin, qui est un réalisateur directeur de la photographie français. Son film a une nomination au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, dans la catégorie film d'ouverture, ce qui n'est pas la catégorie la plus facile, hein. Le fait qu'il ait une nomination, c'est que son film a plu. Et c'est quoi ? Ben c'est pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue. Romain, médecin en hôpital psychiatrique, n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un agent secret. Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix. Léo, dit le lion, est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ? Alors c'est marrant le nom de Milan là. Léo Milan, moi ça m'a rappelé. Milan, c'était aussi Ralph Milan, qui était un tueur espion aussi dans L'Emmerdeur d'Edouard Molinaro en 1973. Et c'était Lino Ventura et qui faisait Monsieur Milan. Et il y avait Jacques Brel qui n'arrêtait pas de lui dire « Oh Monsieur Milan, pardonnez-moi Monsieur Milan, oh excusez-moi Monsieur Milan ». C'est curieux qu'on ait repris ce nom justement pour un drôle de gars, là, Milan. Voilà, c'est un nom qui revient comme ça. J'ai bien aimé ce rapprochement. Alors, on a quoi ? Ben, dans les acteurs, on a Danny Boone. C'est lui, Léo Milan, Danny Boone. Eh oui, déjà, on a une petite idée quand même. Hein. On a Philippe Catherine. Alors, lui, c'est Romain. Voilà. On a Anne Serra, Samuel Jouy, Carole Brancy, Sophie Verbeck, Stana Roumillac. Ils sont connus, en fait, les visages. Hein. On ne connaît pas tous les noms, bien sûr. Parce que, bon, c'est vrai que c'est plus difficile de se rappeler d'un nom que d'un visage. Par contre, si on a l'habitude d'aller un peu au cinéma, on les reconnaît tous, quasiment. C'est un casting, je dirais, sympathique, en fait. Ça dure 1h35. Très chouette. Tout à fait, même. Alors, ensuite, malheureusement, on va passer à un drame. Eh ben oui, on quitte la comédie pour l'instant. Attendez, ça ne va pas durer. Donc, on est sur un drame français, oui, qui s'intitule « Revenir ». Revenir a une nomination à la Mostra de Venise 2019. C'est un film de Jessica Palud, qui est une réalisatrice scénariste française. Elle a 37 ans. Elle a déjà eu, elle, un César pour le meilleur court-métrage en 2018. Donc, elle fait du bon boulot, hein, on peut dire ça comme ça. L'histoire de Revenir, c'est quoi ? Bah, c'est la ferme, il s'agit de la ferme où Thomas est né. C'est sa famille, son frère qui ne reviendra plus, sa mère qui est en train de l'imiter et son père avec qui rien n'a jamais été possible. Il retrouve tout ce qu'il a fui en fait il y a 12 ans. Mais aujourd'hui, il y a Alex, son neveu de 6 ans, et Mona, sa mère incandescente. Dans les acteurs, c'est pareil, on a des pointures quand même. Hein. Nils Schneider, voilà, c'est Thomas. On a Adèle Exarchopoulos. Alors, Adèle Exarchopoulos, qui est une comédienne quand même extrêmement talentueuse. On l'avait vue La vie d'Adèle, hein. Chapitre 1 et 2 avec Léa Seydoux, d'Albelatif Kechiche. En 2007, on l'avait vu aussi. Lui, il avait réalisé La graine et le mulet. Non, elle n'y était pas. Elle était dans La vie d'Adèle. Et elle avait eu un prix pour ça, hein, de la meilleure actrice. Ouais, c'est quand même. On la reconnaît, elle est jeune, mais elle est extrêmement talentueuse. Patrick Dassoum-Sao, on a aussi, qu'on connaît, quand on le voit, on le reconnaît. Hélène Vincent, très très grande comédienne, Hélène Vincent. Elle a toujours, dans ses rôles secondaires, elle est toujours extrêmement marquante, Hélène Vincent. Elle a ce côté, on se souvient d'elle quand on la voit dans un film, même si elle a très peu de répliques. C'est son truc, ça, Hélène Vincent. Alors, en fait, la cinéaste nous dit « J'ai eu un coup de cœur pour un roman de Serge Joncourt, L'amour sans le faire. J'ai réussi à le rencontrer. Je lui ai dit ce que j'aimais dans son roman. Il m'a fait confiance pour l'adapter. Le processus d'adaptation a été assez long et le film est aujourd'hui une adaptation très libre du livre. » Donc, elle s'est mise d'accord avec l'auteur, ce qui est une excellente idée. La plupart du temps, quand même. Voilà, à revenir, en fait, est un film réaliste, mais il est traversé de passages symboliques, comme par exemple la scène d'amour dans la boue, ou l'affrontement, réconciliation entre Thomas et son père dans le bois. Il y a deux scènes qui sont assez corsées, là. Et elle nous dit, Jessica Palud, en fait, j'aime le romanesque, j'aime que du soleil on puisse dériver, en fait, dans la poésie. Voilà. C'est pas un film poétique, mais quand même, il y a quelque chose, effectivement, il y a un côté romanesque, quand même, oui, dans ce film. Elle dit qu'elle tente de défendre un naturalisme pacifique et poétique. Donc, ça donne une idée quand même de ce que peut être ce film, Revenir. Ce qu'elle en dit, elle, Jessica Palud. Ça dure 1h17, Revenir. Le prix n'est pas volé, à mon avis. Et ensuite, alors là, on a un film de guerre, une comédie, c'est un drame, il y a un peu de tout, c'est américain. Et ça s'appelle Jojo Rabbit. C'est de Taika Waititi, qui est un acteur, réalisateur, scénariste néo-zélandais. Bah oui, son nom, on s'en doute un petit peu quand on donne son nom. Il a 44 ans, il a déjà eu 21 nominations dans sa carrière. Voilà, c'est quand même... Et là, pour son film Jojo Rabbit, alors attention, il a 17 nominations dans tous les festivals.
Alors, le film commence à faire.
Ah oui, c'est pas. Le film est adapté en fait du roman Le ciel en cage de Christine Lundens. Il a été publié en 2004, son livre. Alors, dans le livre, l'histoire est racontée à travers le regard d'un enfant allemand endoctriné, éduqué à la haine par les adultes. Alors, Taika Waititi utilise l'humour pour évoquer Hitler et la Seconde Guerre mondiale. J'amène, dit-il, le public au bon état d'esprit en le faisant rire, car je ne voulais à aucun prix faire un drame classique sur la haine et les préjugés, parce que nous sommes désormais très habitués à ce genre de film. Alors, évidemment, ça rappelle absolument La vie est belle. Le film La vie est belle, on pense à Roberto Benigni, le film qui est sorti en 1998 où un père se retrouve dans un camp avec son petit garçon et il va faire en sorte de faire... Il va jouer un rôle, il va faire le clown pour que son petit garçon ne se rende pas compte de ce qui se passe autour de lui. Il va le cacher d'ailleurs, il va réussir à cacher son petit garçon qui sera libéré après. Et le père, lui, évidemment, est emmené à la mort. Mais tout le film est comme ça, quoi. C'est un film extrêmement... Et ça rappelle... Jojo Rabbit rappelle absolument « La vie est belle » de Roberto Benigni. Alors, c'est un petit Allemand solitaire, Jojo. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Jojo, c'est Roman Griffin Davis. C'est un acteur britannique, il a 13 ans. On a Scarlett Johansson, on la connaît bien sûr. On a Taika Waititi. Alors Taika Waititi, c'est le réalisateur, joue le rôle d'Adolf Hitler dans ce film. Et le petit garçon, là, c'est l'histoire d'un père, en fait, qui veut tout faire pour éviter l'horreur à son petit garçon. C'est dans cette veine-là, quoi. C'est un truc, c'est assez... C'est beau, c'est poignant, ça dure 1h48. C'est pour ça qu'il y a de tout, la guerre, de la comédie, du drame, comme dans La vie est belle, hein, c'était ça aussi. Un espèce de mélange comme ça. Quel courage il faut pour pouvoir faire ça, quoi. Quel courage pour celui qui essaie de... d'éviter l'horreur à ses enfants. C'est très, voilà, c'est très beau, mes chéris, c'est très beau comme film. Jojo Rabbit. Et puis, après, j'ai un biopic, drame, voilà, il y a les deux. C'est biopic et dramatique, c'est américain, La Voix de la Justice. Alors, c'est quand même, quelque chose de... C'est de Dustin Daniel Cretton, qui est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 41 ans, il a déjà eu des prix et 9 nominations. Son film a une nomination au Screen Actors Guild Awards 2020 à Los Angeles. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Jamie Foxx qui joue dans ce film. Justement, j'allais donner son nom en prêt. Alors, c'est quoi C'est l'histoire de, c'est le combat historique du jeune avocat Brian Stevenson. Après ses études à l'université de Harvard, il aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Et oui, Harvard, évidemment. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort avec le soutien d'une militante locale, Eva Hensley. Un de ses premiers cas, le plus incendiaire, est celui de Walter McMillan, qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre retentissant d'une fille de 18 ans. Et ce, en dépit d'un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d'un unique témoignage à son encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses. Au fil des années, Brian se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il doit aussi faire face à un racisme manifeste et intransigeant alors qu'il se bat pour Walter et d'autres comme lui au sein d'un système hostile. C'est donc un film, c'est pareil, c'est un très beau film qui dure 2h17. C'est inspiré de faits réels. Hein. C'est titré « Michael B. Jordan et Jamie Foxx méritent un Oscar ». Ben justement, Jamie Foxx a eu le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Michael B. Jordan, il joue le rôle de Brian. Et Jamie Foxx et Walter McMillan, hein, justement le condamné à mort. On a également Rob Morgan, 4. On a Brie Larson dans les rôles principaux. C'est un film pareil, qui prend au trip quand même. Hein. C'est adapté hein, du livre autobiographique A Story of Justice and Redemption, écrit par Brian Stevenson, qui retrace son combat pour défendre des personnes condamnées à mort. Voilà, donc ça vient de son livre. Alors, Jamie Foxx, lui, il est l'accusé. Alors, pour l'anecdote, hein, l'acteur avait joué le condamné à mort, exécuté en 2005, Stan Tucci Williams, dans Redemption, justement, sorti en 2004 aux États-Unis. Décidément, Jamie Foxx, les rôles de condamné à mort, oui, bon, pourquoi pas, c'est pas très réjouissant, mais ce ne sont pas des rôles faciles, en fait. Hein, jouer un condamné à mort, c'est pas très facile, quand même. Voilà, La Voix de la Justice. C'est un sacré film, quand même. Il est très long, hein, 2h17. Les pop-corns, je ne sais pas si on peut les manger, parce que c'est prenant comme film. Alors, je ne suis pas sûre hein, qu'on puisse manger les pop-corns. Mais voilà, c'est quand même... Et puis, mais j'avais aussi... Alors, j'ai un film d'espionnage. C'est thriller en même temps, espionnage. Bon. C'est français, espagnol, brésilien et belge. Tout le monde s'y est mis, ça s'appelle Cuban Network. Ça veut dire en fait le réseau cubain, hein, si on traduit. Donc il y a eu quand même, c'est d'Olivia Sayas, on le connaît. Olivia Sayas, on a déjà parlé de lui, c'est un acteur, c'est un scénariste, réalisateur français. Il a déjà eu 2 prix et 58 nominations, il a 64 ans. C'est d'après une histoire vraie. Hein, puisque Cuban Network, ça se passe début dans les années 90, début 90, un groupe de Cubains, excusez-moi, installés à Miami, met en place un réseau d'espionnage. Leur mission, infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d'attentats sur l'île. Donc le film, en fait, il est tiré du livre du journaliste et homme politique Fernando Mores. Il a 5 nominations, ce film. 2 au Festival du cinéma américain de Deauville et 3 à la Mostra de Venise, tout ça en 2019. En 1959, en fait, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba, hein, on se souvient un peu quand même, en renversant le dictateur Fulgencio Batista, on connaît ce nom aussi malheureusement, soutenu par les États-Unis. Cuba devient une république socialiste. Les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques et imposent un embargo commercial qui est en grande partie toujours en vigueur aujourd'hui. Dès le début des années 60, des organisations d'exilés cubains décident et se lancent dans un mouvement. Et en fait, ils décident que Cuba est un pays dangereux. Dans cette lutte souterraine, ils se lancent là-dedans. C'est quand même ouf. C'est un fragment d'histoire contemporaine. Ouais. Cette guerre souterraine entre les exilés cubains et le régime de Castro, c'est compliqué, mais c'est une histoire. Si vous êtes intéressé par cette histoire de Cuba, de Castro, de ce groupuscule anticastriste. Qui ont quand même cumulé pas mal d'attentats. Ben voilà, ce film est pour vous. On a Penélope Cruz dans les rôles principaux, Edgar Ramirez, Leonardo Sbaraglia, Gael García Bernic, Wagner Moura. C'est, voilà, si on est intéressé, parce que si Cuba ne vous intéresse pas, évidemment, bon, je pense que là, vous pouvez faire l'impasse. Mais si cette histoire vous intéresse, l'histoire de Castro, évidemment, ça dure 2h05, ça vaut la peine. Et puis j'ai un drame américain aussi, ça s'appelle Waves, W-A-V-E-S. Hein.
La vague, les vagues.
Oui, tout à fait. C'est de Trey Edward Schultz, qui est un réalisateur, scénariste, chef monteur américain. Il a 31 ans, il a déjà eu un prix et 9 nominations. C'est le parcours des membres d'une famille afro-américaine, menée par un patriarche protecteur, mais très exigeant, sur les eaux troubles du malheur et du deuil. Un chemin douloureux qui finira par les rassembler sur les rives de l'amour et du pardon, si tant est qu'ils parviennent à accepter de lâcher prise. C'est titré d'ailleurs le récit épique d'une famille américaine moderne, l'expérience cinématographique la plus intense de l'année, émotionnellement bouleversant et imprévisible. On ne voit des films de cette envergure que très rarement, si ce n'est jamais. Ah oui, c'est titré carrément, là, ça dure 2h16. On a Kelvin Harrison Jr., on a Taylor Russell Mackenzie, on a Sterling Brown, Alexa Demi dans les rôles principaux. Il y a 2-3 visages qu'on peut reconnaître si on est habitué quand même à aller voir des films américains. On peut les reconnaître. J'ai dit 2h16, je crois, oui. C'est quand même... Ensuite, on a... Oh, ben là, j'avais un... Oui, La beauté des choses. La beauté des choses, c'est un très beau film, c'est un drame, c'est romancé. Il y a de la guerre, c'est aussi érotique en même temps. Il y a... Comme quoi, vous voyez, il y a un peu de tout là quand même. C'est danois, c'est suédois. C'est de Bo Widerberg, qui est un réalisateur, scénariste, monteur suédois. Alors, il est décédé, lui, en 1997, à 66 ans. Il avait eu 3 prix et 20 nominations. Et à la Berlinale, d'ailleurs, il avait eu le grand prix du jury Ours d'Argent. Un prix, 5 nominations. La beauté des choses, ça se passe en 1943. Alors que ses camarades sont très occupés à parler de sexualité, un trouble s'installe entre Stig, jeune lycéen, et son professeur, Viola. Stig est attiré par cette femme, belle et mature. Viola aime le Stig. Ce qu'elle aime chez Stig, elle, Viola, c'est sa jeunesse et son innocence. Ils deviennent vite amants. Mais Stig rencontre fortuitement Frank, le mari de Viola, représentant de commerce, alcoolique et fantasque. Une étrange relation d'amitié va naître entre eux. Alors, dans les rôles, on a Johan Widerberg, il joue Stig et c'est le fils du réalisateur, Bo Widerberg, dans la vie. Et on a Marika Lagerkrantz, très, une actrice qui est très appréciée là-bas, chez elle, et qui est très jolie d'ailleurs, et qui nous fait Viola. La beauté des choses. Alors, c'est un... Effectivement, il a eu donc ce prix à Berlin, cette nomination aux Oscars, juste avant sa mort. C'est une mort prématurée quand même. Hein. Donc, c'était son grand retour sur la scène internationale à ce moment-là. Et donc, voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas pu le recevoir lui-même, bien sûr. Alors, Franck, c'est qui, Franck, le mari de Viola? Il adore la musique classique. C'est un amour qu'il va transmettre à Stig, d'ailleurs, ce jeune garçon, l'amant de Viola. C'est un rebelle issu d'un milieu très modeste, autodidacte. Il a trouvé seul le chemin vers l'art. Là, je parle de Widerberg, là. Hein. En réalité, je ne parle pas de Stig, hein. Qui vient d'un milieu modeste, qui est un rebelle, qui est autodidacte, et qui, en fait, il a trouvé tout seul le chemin vers l'art, la littérature et la musique. Voilà. Alors, il avait un rêve, cet homme-là, c'était que la classe ouvrière s'élève matériellement et arrive aussi à avoir accès au plaisir de ce qu'on considère comme la culture bourgeoise. C'est beau, ça, je trouve. Quel dommage qu'il ne soit plus là, cet homme-là. C'était beau, ça. Son rêve, il était très beau. Voilà, la beauté fut le comeback dont rêve tout réalisateur. Le film a tout eu. L'acclamation des critiques, le succès public et des prix dans les festivals. C'est la Louse d'argent dont on avait parlé déjà, la nomination aux Oscars pour le meilleur film étranger. Eh oui, quel dommage pour lui. Beau Widerberg, ça dure, je l'ai dit, je crois, 2h05. 66 ans, hein, il pouvait faire encore de très, très, très jolies choses. Un soir en Toscane, c'est quoi ça? Eh bien, c'est un drame polonais-américain, eh oui, qui a eu deux nominations au Sundance Film Festival 2019 au Park City. Park City, c'est aux USA. Hein. Le réalisateur, c'est Jacek Borkusz, c'est un réalisateur, scénariste, acteur soviétique polonais de 49 ans. Il a donc... alors, c'est l'histoire de Maria Lind, poétesse et prix Nobel juive polonaise, qui s'est retirée loin des mondanités et des conventions dans la paisible campagne de Toscane. Elle y vit libre et heureuse, entourée de sa famille, de ses amis et de son jeune amant égyptien. Mais la tension monte dans la vieille Europe, comme dans sa petite ville où le réfugié afflue. Refusant l'hypocrisie ambiante, Maria accepte une ultime remise de prix et revient dans l'espace public avec une déclaration qui fait scandale. On a Christina Janda dans les rôles principaux, Vincent Riotta, Antonio Catania. Alors c'est en fait Christina Janda, là, c'est une actrice polonaise qui est très connue en Pologne et très appréciée. Ouais. C'est un joli film, Un soir en Toscane. Ensuite, j'avais aussi un drame islandais, danois, suédois, Un jour si blanc. Ça dure 1h49. Attention, il y a un avertissement. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. C'est un film d'Ilnur Palmason, qui est un réalisateur, scénariste, producteur islandais de 35 ans. Son film a un prix et trois nominations à la Semaine internationale de la critique 2019. Il a le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation. C'est l'histoire, dans une petite ville perdue d'Islande, un commissaire de police en congé soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec sa femme, récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l'obsession. Celle-ci s'intensifie et le mène inévitablement à se mettre en danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance et d'amour inconditionnel. On a Ingvar Egert. C'est un acteur islandais. Ils sont tous connus là-bas, en Islande. Ils sont très connus, je l'avais noté. On a Ida Mekin. Voilà, nous, on ne les connaît pas, mais ça a l'air de sacrés acteurs aussi, ceux-là, 1h49, Un jour si blanc. Ah oui, et puis je voulais quand même finir aussi sur un documentaire que j'ai trouvé quand même assez passionnant sur Botero. Ah, Botero, qui est un sculpteur... peintre autodidacte colombien Fernando Botero. Botero, c'est l'artiste le plus exposé au monde et facilement reconnaissable. Pourquoi ? Parce que il a sculpté des personnages aux formes rondes et voluptueuses. On l'a vu un peu partout. À Bordeaux, il y a eu une expo. À Paris, il y en a eu.
Oui, des petites têtes et des gros corps.
Voilà, on le reconnaît tout de suite, effectivement. Il a 86 ans actuellement. Il est né en 1932 à Medellín. Medellín, et oui, ça rappelle des choses.
En Colombie.
Eh ben oui, ça rappelle la deuxième personnalité colombienne la plus connue au monde, malheureusement, Pablo Escobar. C'est les deux personnalités colombiennes les plus connues dans le monde, tous les deux. En fait, c'est terrible, quoi. Mais alors, le film réunit l'homme et son art pour capturer l'essence de Botero. La résolution tranquille et la force de caractère qui lui ont permis de vaincre la pauvreté, des décennies de critiques acerbes et la mort tragique de son fils de 4 ans. C'est une chronique poétique, en fait, ce film, d'une vie inspirante et d'un regard en coulisses sur le pouvoir d'une vision artistique unique. Et oui, et alors, il y a quand même un fait assez extraordinaire. En 1988, il y avait la guerre des gangs là-bas, en Colombie, et une voiture piégée a explosé à côté d'une propriété d'Escobar. Donc, on a retrouvé dans les décombres de la maison, entre autres, une œuvre de Botero. Alors, à ce moment-là, Botero, lui, il a demandé, il a écrit, il nous dit, « J'ai demandé au directeur du journal El Tiempo qu'il écrive un édito informant que je me sentais dégoûté par le fait qu'Escobar possède l'une de mes œuvres. Alors, mon ami journaliste m'a demandé qu'après avoir publié cela, je m'enfuis du pays par sécurité. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé mes bagages et je suis partie pour l'Europe. Voilà, Botero. Alors il nous dit, lui, l'art doit être un oasis, un refuge contre la dureté de la vie. Je voulais peindre, il dit, mieux que les artistes du monde entier. Peindre, c'est ma vie. Oui, parce qu'il est sculpteur et peintre. Ses amis, d'ailleurs, lui disaient à l'époque, mais t'es complètement fou quand il est parti aux États-Unis avec ce qu'il faisait, là, avec ses peintures et ses sculptures très, très spéciales. Il a dit, Botero, il le dit d'ailleurs actuellement, je ne suis pas esclave de la réalité, je suis esclave de l'art. Voilà. On peut peindre sur des sujets graves avec beaucoup d'amour. Et il ajoute, la vie doit être vécue avec amour. Voilà, c'est un documentaire canadien-colombien, Botero, ça dure 1h22. Mais chérie, essayez, c'est de Don Millar, au fait, réalisateur-scénariste canadien, Don Millar. Essayez, si vous aimez Botero, si vous aimez ce qu'il a fait, essayez absolument de choper ce documentaire ou de l'avoir en DVD, parce que si vous l'aimez, il est pour vous, ce film, à tous les coups. Voilà.
Très bien, et bien merci beaucoup Anne pour toutes ces sorties cinématographiques de ce mercredi.
Oui, oui, j'espère en tout cas que... Merci, je voulais dire merci de nous avoir reçus chez vous déjà. Et puis j'espère que vous trouverez quand même un film à voir, là. Un film qui vous fera du bien, qui vous stressera un petit peu. Quelquefois, ça fait du bien d'être un petit peu stressé devant les images. Et puis, en attendant, justement, allez dans les salles de proximité quand vous le pouvez, bien sûr. Oui, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Et puis, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et n'oubliez encore moins, n'oubliez surtout pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.